Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous parler des NMF, nouveaux modèles familiaux. Actuellement, les discours publics ne parlent plus de la famille au singulier, si vous prêtez un peu l'oreille, mais des familles. Et dans un premier temps, on n'y prête guère attention. N'y a-t-il pas plusieurs manières de vivre la famille? Chaque famille n'est-elle pas unique? Donc, ça ne nous dérange pas qu'on parle des familles. Pourtant, le pluriel est un signe d'un important virage dans la compréhension de l'identité familiale. Cet exposé décrira tout d'abord l'émergence conceptuelle de l'identité familiale, ou plus précisément des réalités familiales plurielles qui se cachent ou qui sont désignées par cette expression « nouveaux modèles familiaux ». Ensuite, dans un deuxième temps, un point B, vous avez les plans ici au tableau, nous étudierons la place accordée à l'enfant, critère infiniment précieux de discernement. Enfin, dans un troisième temps, nous confronterons plus immédiatement les résultats de notre recherche à la famille au sens habituel du terme. Nous déploierons notre réflexion sous un angle essentiellement philosophique. Peut-être que dans la conclusion, si on y arrive, nous pourrons reprendre les choses d'un point de vue plus théologique, mais je voudrais réfléchir avec vous sur un plan strictement philosophique. Grande première partie, l'émergence des nouveaux modèles familiaux. Trois grands types d'organisation familiale dans l'histoire. De nombreux sociologues, considérant l'évolution du système familial, distinguent trois grands types d'organisation familiale. Tout d'abord, donc ce n'est pas mon vocabulaire, ce n'est pas non plus nécessairement ma position, hein, mais je vous transmets ce que j'ai lu. La famille traditionnelle, première grande organisation, de nature clanique, liée à un univers sédentaire rural ou même nomade. Cette conception, disent les sociologues, est principalement holistique. La sphère publique n'est pas vraiment distinguée de la sphère privée. Le groupe prime sur l'individu. La liberté et l'autonomie des conjoints sont peu pris en compte, que ce soit au niveau de l'intimité conjugale ou à celui de leur parenté. Le système est contrôlé par une forte autorité patriarcale. Vous voyez, donc ce qu'on met sous le vocable famille traditionnelle, c'est une famille où vraiment c'est le clan qui est important. Et au cœur du clan, il y a le père. Deuxième grande organisation familiale, la famille moderne, nucléaire, promue par l'Église et par la société industrielle. Les rôles de chacun y sont clairement répartis. L'homme produit et la femme s'occupe du foyer. Cette configuration se retrouve d'abord chez les bourgeois, ensuite chez les ouvriers qui tentent de les imiter. Elle réduit la nature holistique de la famille traditionnelle à sa plus simple expression. Le mari et la femme ne forment qu'un dans une communion inégalitaire et hiérarchisée. Ça va ? C'est simple, hein ? C'est un petit peu caricatural, mais voilà. Hein ? Troisième type de famille dans l'histoire des sociétés, telle que nous a présenté une série de sociologues, La famille contemporaine ou postmoderne, née de la revendication des femmes en particulier, et aussi des hommes. Je ne suis pas qu'un ventre, je ne suis pas qu'un producteur. Elle fait éclater la boîte familiale des siècles précédents. La contraception aurait joué un grand rôle, un rôle libérateur. Ce type de famille fonctionne sur un monde, dans un monde et surtout sur un mode plus égalitaire, démocratique et contractuel. La liberté individuelle et l'affectivité y apparaissent comme des valeurs centrales. Certains parlent de famille relationnelle, c'est la relation qui est prime, mais pour ma part, je préfère l'expression de collectivité familiale. Je m'en expliquerai plus tard. La famille postmoderne fédère donc divers, le mot intéressant c'est le mot fédérer, fédère donc divers individus autour d'un projet commun, d'un contrat déterminé. Elle exclut, cette famille postmoderne, la famille dite traditionnelle avec sa dynamique holistique, inégalitaire et discriminatoire. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'utilise ces termes-là que c'est nécessairement l'expression de ma pensée, mais j'accueille ce que j'ai lu, quoi. D'accord ? Je vous le transmets. Elle reprend par contre la famille nucléaire, la famille dite moderne, mais avec deux nuances importantes. Tout d'abord, elle entend corriger sa visée inégalitaire et discriminatoire homme-femme, notamment en développant une approche fonctionnelle. Les partenaires doivent se mettre d'accord pour une juste répartition des rôles, ceci étant interchangeable. Souvenez de tout l'enseignement du père Dijon sur l'égalité. Ensuite, deuxième nuance importante, elle relativise la famille moderne en la présentant comme une configuration parmi d'autres possibles. Ça va ? C'est pour le premier grand point. Donc, en fait, trois grands types d'organisation familiale dans l'histoire des sociétés. Évidemment, dans cette façon de présenter, il y a une série de présupposés philosophiques importants. Passons au point 2. Quatre nouveaux modèles familiaux. Selon cette perspective, la famille nucléaire bourgeoise, qu'habite le bourg, n'a plus désormais le monopole de la réalité familiale. À ses côtés apparaissent de nouvelles configurations ayant une légitimité équivalente. Nous sommes dans un univers de l'égalité. J'en ai repéré quatre, il y en a peut-être un peu plus, mais enfin ce sont les quatre qui se font parler d'elle. La famille dite concubinaire, la famille monoparentale, la famille homoparentale et la famille recomposée. Et évidemment, on pourrait ajouter d'autres modèles, hein, qui sont pour l'instant socialement difficilement admissibles, mais qui, pourquoi pas, dans un temps proche, pourraient être trouver place dans une société démocratique égalitaire. Par exemple, la famille polygame ou la famille polyandre. Évidemment, il y a d'autres types de difficultés on peut en reparler, si vous voulez. Mais avec la famille polygame, il y a une façon de réintroduire l'inégalité qui fait peur à nos sociétés. Ou la famille multigenre. On attribue à ces réalités plurielles un dénominatif commun, donc le dénominatif de famille. Et ce genre de vocabulaire, notons-le, n'est pas réservé à une élite intellectuelle, à une intelligentsia en chambre, comme nous. Ce genre de vocabulaire est enseigné dans les écoles, écrit dans les manuels scolaires, avec des exemples à la clé. Pensez à Cendrillon, qui est exclue des manuels scolaires et remplacée par deux girafes amoureuses l'une de l'autre et qui donnent naissance et qui adoptent un œuf de crocodile. Et 4 ans. Parler et représenter dans les émissions de télévision. L'imaginaire des enfants et des jeunes, et aussi des adultes, est ainsi façonné. Ces quatre nouvelles configurations familiales évoquées possèdent, quand on les observe de près, en réalité un point commun. Je ne sais pas si vous pouvez le percevoir, mais un dénominateur commun. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que je voudrais vous transmettre. Si vous avez compris ça, après, vous pouvez vous reposer. Eh bien, le dénominateur commun entre tous ces nouveaux modèles familiaux, c'est la précarisation du lien conjugal. Ou alors son appauvrissement. Sa décomposition. Ou encore sa non-existence. Bien entendu, nous ne posons aucun jugement moral sur les personnes vivant dans de telles configurations. Mais en analysant ces structures dites familiales d'un point de vue objectif, on constate une fragilisation, une transformation, une absence du lien conjugal. Très intéressant d'utiliser cela comme critère. Les deux critères d'évaluation, si vous voulez, philosophique, c'est le lien conjugal et c'est l'enfant, que nous verrons dans un deuxième temps. Qu'il nous soit permis de quitter un instant les laboratoires intellectuels, et ce sans notion péjorative des laboratoires intellectuels, mais qu'il nous soit permis un moment de les quitter, de la réflexion des idées, et de descendre dans l'existence concrète des personnes. Ces quatre choix sociaux, donc concubinaire, homoparental, monoparental, recomposé, engendre de facto beaucoup de souffrances et de manques. Dans la plupart des cas, ces modèles ne sont pas choisis pour eux-mêmes, mais comme, n'ayons pas peur des mots, remède à des échecs, comme palliatif à des manques. Voilà pourquoi, si je vous rends vraiment attentif à cela, il faut pouvoir aborder ces situations avec une infinie délicatesse. Dans ces revendications des nouveaux modèles familiaux, s'exprime en général beaucoup de souffrance. Ainsi, de très nombreuses femmes vivent en famille homoparentale, comme elles disent, finalement, pour cause d'abandon. Ces nouveaux modèles n'apparaissent donc pas vraiment comme des libres créations ou comme des inventions enviables. Je suis dans telle situation, j'essaye de trouver quelque chose qui me permettra de vivre au mieux dans la condition qui est la mienne pour l'instant. Par ailleurs, on peut se demander si les nouveaux modèles familiaux sont si nouveaux que cela. Dans l'histoire romaine, par exemple, le concubinatus était une forme de vie commune, répandue, très répandue, hors du cadre du iusum matrimonium. Et il générait des situations vraiment de très grande injustice. C'était les esclaves, finalement, qui n'avaient pas le droit de se marier. L'union libre existe de tout temps, spécialement dans les milieux défavorisés. Spécialement dans les milieux défavorisés. À Paris, au XIXe siècle, la moitié des ouvriers vivaient en union libre. Accéder à l'institution sociale du mariage était alors considéré comme un bien hautement souhaitable. Pourquoi ? Parce que dans un état de droit, une telle institution garantit la reconnaissance et la promotion de la sphère familiale privée. Elle protège les conjoints et leurs enfants de toute intrusion intempestive, fût-elle celle de l'État lui-même. C'est intéressant de voir que nous, on ne veut pas que l'État rentre dans nos histoires. Mais ce faisant, on ne se rend pas compte que l'État peut entrer beaucoup plus facilement, parce que la forme du mariage, l'institution du mariage, justement, garantit et protège une sphère privée. Ceci est vrai spécialement par rapport aux enfants. Loin d'être leur ennemi, l'institution du mariage est leur allié dans la libre édification de leur communauté. Elle leur offre un nombre considérable d'avantages, non seulement au niveau matériel, mais également social, psychologique, culturel et même spirituel. Elle encourage leur développement autonome. Donc, voilà une rapide présentation, déjà critique, de ce qu'on appelle les nouveaux modèles familiaux. Voyons maintenant dans un deuxième point, l'enfant. Premièrement, l'enfant en état de privation. Je ne dis pas en état de manque, mais en état de privation. Vous connaissez la différence entre la privation et le manque. Au niveau métaphysique, c'est important. L'aveugle est privé de vue, parce qu'il y avait droit. Mais un homme n'est pas privé, par exemple, d'aile. Ça va ? Parce qu'il n'y avait pas droit. Donc, je parle ici de privation. Voyons très concrètement ce qu'il en est. De facto, donc j'ai passé en revue les quatre modèles familiaux. De facto, l'expression « famille monoparentale » désigne en toute grande majorité l'absence du père. Que cette absence soit accidentelle ou volontaire. Et pour un enfant, l'absence de son père est toujours une rude épreuve. Cette épreuve peut être vécue différemment, c'est intéressant à noter ça, si le père est rendu symboliquement présent, si la mère célibataire ne s'imagine pas qu'elle est en mesure de combler tous les besoins de son enfant, si elle ne l'enferme pas dans une relation totalisante. Je ne sais pas si c'était le meilleur conseil qu'on donnait aux femmes dont les maris étaient prisonniers de guerre pendant les années 40-45. Et on disait, quand vous punissez l'enfant, il faut le punir symboliquement sous le portrait de votre mari absent. C'est une façon de rendre présent le père dans la sanction. Je ne sais pas si c'était le meilleur. Enfin, ouais. Mais en tout cas, dans cet petit exemple, se manifeste une réalité anthropologique profonde, c'est que la femme ne se reconnaît pas toute puissante. Elle dit, ben voilà, il y a un manque. Et c'est très différent d'éduquer un enfant dans la toute-puissance, dans le sentiment de toute-puissance, qui a des résultats en général assez catastrophiques, ou d'éduquer un enfant courageusement en reconnaissant que, ben voilà, je ne suis qu'une maman et il y a des choses que je ne pourrai jamais te donner. Et en cherchant des relais éducatifs ailleurs. Vous voyez ? Il ne s'agit pas ici de critiquer quiconque, évidemment, encore une fois. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. C'est ma grande devise. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et on ne peut qu'admirer ces femmes célibataires qui éduquent courageusement leur enfant. Notre propos consiste simplement à reconnaître combien l'absence du conjoint est une épreuve pour tout le monde, pour l'enfant comme pour le parent seul. En ce qui concerne les familles homoparentales, qu'en est-il de l'adoption d'un enfant ou de recours aux procréations médicalement assistées dans ce genre de configuration ? dont les débats font rage en France pour l'instant. La vraie question n'est pas d'abord celle de la qualification morale de l'homosexualité. La vraie question ne réside pas non plus dans la capacité ou non que des personnes homosexuelles ont à aimer ou à éduquer des enfants. La vraie question, c'est d'accepter que des dizaines de milliers d'enfants puissent a priori être privés de trois biens fondamentaux. Tout d'abord, de deux repères identificatoires différents, le masculin et le féminin. Souvent, on dit, voilà, mais oui, les duos homosexuels ont le droit à la différence, mais c'est le droit à une forme d'indifférence. L'enfant, le fameux droit à la différence, revendiqué par certains, doit s'appliquer aussi à l'enfant. Celui-ci a le droit d'avoir un papa et une maman. Il y a quelque chose d'ailleurs d'erroné dans le terme homoparental. Homoparental. Tout comme d'ailleurs dans le terme, ce sont des néologismes, hein, dans mon ordinateur qui n'est pas si vieux que ça, c'est souligné en rouge. Hein, ce n'est pas dans... Ça veut dire que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est-à-dire qu'il n'est pas intégré dans le dictionnaire il y a 3 ans et demi. Donc, la parenté est une réalité essentiellement relationnelle. Elle est en quelque sorte toujours hétéroparentale, si vous me permettez cette redondance. Ça n'a pas de sens de parler de hétéroparentalité. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc le premier bien auquel l'enfant est privé, c'est de deux repères identificatoires différents. Deuxième bien, c'est la continuité entre le couple procréateur et le couple éducateur. Le privé a priori de cela, oui, a priori de cela. Très différent quand un enfant est là tout seul dans la rue ou dans un orphelinat et qu'on l'accueille dans des conditions qui sont parfois pas évidentes, vous voyez. Et là, c'est a priori. C'est tout le rapport au réel dont nous parlait Xavier Dijon la fois passée. Troisième bien, dont l'enfant est privé a priori par la loi, il s'agit d'une généalogie claire, lisible et cohérente. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes grands-parents, mes oncles, mes tantes? Ces questions, les enfants nés sous X, par exemple, se les posent souvent avec angoisse. Ils désirent savoir, comme ils disent, pour élaborer leur identité. Passons maintenant en revue rapidement les familles recomposées. Dans les familles recomposées, il convient de distinguer celles qui font suite à un veuvage et celles qui font suite à un divorce. Celles qui font suite à un veuvage, il y a plein de questions qui se posent et qui c'est pas toujours très simple, même si c'est une chose magnifique. Je vais me concentrer sur celles qui font suite à un divorce. Mais il y a des analogies. Ces dernières, donc les familles qui font suite à un divorce, sont bâties, les familles recomposées sont en fait bâties sur la décomposition d'une autre famille. Et en général, c'est cette première, pas toujours, mais en général, c'est cette première famille qui compte pour l'enfant. Cela ne veut pas dire évidemment que dans les familles recomposées, il n'y ait pas de très belles choses qui se vivent. Mais les défis à relever sont parfois redoutables. Et on le découvre de plus en plus. Parmi ces défis, notons la relation au beau-père ou à la belle-mère, la fratrie recomposée, la double culture familiale que l'enfant doit intégrer. Chez papa, on peut aller se coucher à minuit. Chez maman, on doit aller coucher à 9 heures. Enfin, Enfin, vous voyez, ou l'inverse. La présence de l'instance judiciaire pour régler les questions de garde alternée ou de pension alimentaire. Il faut aussi composer avec cela. Donc, si vous voulez, pour l'enfant, une famille recomposée, c'est pas son choix premier, en tout cas, en général. S'il pouvait en être protégé, ça ne ferait pas l'ombre d'un doute qu'il préférerait que ses parents restent ensemble. Enfin, la famille concubinaire. Ici aussi, il convient de distinguer différents types de concubinage. Certains concubins sont liés par une forme ou l'autre de contrat. Le Pax en France, par exemple. D'autres par rien du tout. Certains bâtissent un projet de vie commun. D'autres non. Il y a concubinage et concubinage. Hein. Certains sont extrêmement fragiles et temporaires. D'autres visent la durée. Quoi qu'il en soit, dans ces conditions, l'enfant est toujours plus ou moins insécurisé. Il grandit à l'intérieur d'un couple de deux célibataires qui refusent d'entrer dans l'état de mariage, qui refusent de l'instituer ailleurs que dans leur volonté du moment. Chacune de ces nouvelles configurations familiales génère donc par elle-même, c'est-à-dire indépendamment des personnes qui la composent, des privations importantes pour l'enfant. Pourquoi ? Simplement parce que, et je retrouve la thèse centrale de mon propos, parce que de diverses façons, le lien conjugal de ses parents se trouve a priori dans une grande précarité, quand il n'est pas purement et simplement inexistant. Puisque, et je passe ici au point 2 sur la surresponsabilité, puisque le lien conjugal s'avère trop fragile pour fonder la famille, il faut donc chercher un autre lien, plus solide. La postmodernité tourne très logiquement sa demande de durabilité vers qui ? Vers l'enfant. C'est au petit qu'il revient désormais le soin d'assurer le lien minimal de la famille et de sa cohésion. Dans la famille moderne, écrit Jean-Paul Rosenzweig, on est d'abord parent. La filiation est première. La situation matrimoniale est seconde. Selon Irène Théry, ce demi-siècle identifie la famille à partir de l'enfant et non plus à partir du couple. On assiste à un transfert de l'indissolubilité du mariage vers la filiation. On peut divorcer avec son partenaire, mais jamais avec son enfant. L'indissolubilité familiale repose sur l'indissolubilité de la parentalité. Aujourd'hui, écrit Xavier Lacroix, dont je me suis beaucoup inspiré, ce serait la filiation qui ferait la famille. Fonder une famille, ce serait donner naissance à un enfant, le reconnaître, lui donner un nom. Donc, si vous voulez, la pierre de fondation c'est de la famille, c'est le lien avec l'enfant, et pas d'abord le lien avec le partenaire. Quelle redoutable responsabilité repose désormais sur ces jeunes épaules ? Comment en est-on arrivé à un tel basculement par rapport au millénaire passé ? C'est quelque chose qui était absent. Une des raisons majeures est à rechercher dans la culture de la déliaison, de dissociation, de déconstruction et de reconstruction. Alors, je passe ici à mon point 3 du point B, déconstruction et reconstruction. Alors, suivez bien, parce que c'est d'une logique parfaite. Si on accepte l'axiome de départ. Dans un premier temps, le lien parental est dissocié du lien conjugal. Première dissociation. qui sont isolés l'un de l'autre, non seulement distingués, mais séparés. Ces deux réalités, lien parental, lien conjugal, je les inverse déjà dans mon discours, donc il faudrait que je remette l'inverse, hein. Lien conjugal, lien parental, suivent, dit-on, des trajectoires indépendantes et sont combinables au gré des individus et des sociétés. Ainsi, c'est ce que nous avons vu au niveau proprement juridique dans les leçons passées avec le père Dijon, la filiation n'apparaît plus de jure liée au mariage. Ça va ? Donc ça, c'est la première déconstruction, déliaison. Conjugalité et parentalité, parenté. Alors, le mécanisme va maintenant fonctionner pour déconstruire d'un côté la conjugalité et d'un autre côté la parenté. Nous allons vivre très rapidement cette double déconstruction. Mais vous voyez, hein, la logique. Le lien matrimonial, en effet, de son côté, est à son tour déconstruit. Celui-ci ne désigne plus nécessairement l'alliance d'un homme et d'une femme, constituant entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants. Non, ce type de configuration n'offrirait qu'une expression particulière de conjugalité. Mais d'autres seraient possibles, comme par exemple celle qui consisterait à conclure entre partenaires de même sexe. Le lien conjugal est déconstruit, éparpillé en différents éléments et recombiné. Il apparaît comme le résultat d'une construction sociale, d'un gender librement créé par les partenaires. Il faudrait que je recherche, mais c'était tout à l'heure en rédigeant le texte, les derniers mots de mon texte, j'ai comme une sorte de lumière, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, ce qui remplace le lien conjugal, c'est le gender. Le gender bi, le gender homo, le gender hétéro, le gender trans, le gender... Il y a là, voilà, il faudrait travailler davantage cela. Donc, déconstruction du lien matrimonial, d'une part, déconstruction, d'autre part, du lien parental, de la parenté. La paternité et la maternité sont en effet considérées essentiellement comme des rôles, comme des paternalités et des maternalités. Donc quand on utilise le mot paternalité et maternalité, ou parentalité au lieu de parenté, c'est pour insister sur la notion fonctionnelle, sur l'aspect fonctionnel de la parenté. Alors en discutant avec Madame Streuve, qui est psychiatre, qui donne cours ici, qui utilise beaucoup ce terme, lui et moi comme psychiatre, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je vois une famille en grande difficulté, eh bien, je voudrais m'assurer que les différents rôles sont remplis. Et donc, certainement que dans sa perspective, un tel vocabulaire et un tel souci est légitime. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une anthropologie plus fondamentale et qui tend à réduire la parentalité ou la transformer en une réalité purement fonctionnelle, on peut se poser des questions, d'accord ? Nous ne sommes plus dans la même dynamique. Comme le remarque Geneviève Delezy de Parseval, depuis la première fécondation in vitro, en 1984, c'est une psychiatre française, et depuis le premier don d'ovocytes, en 1988, la fonction maternelle, il parle de fonction maternelle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, peut ainsi se répartir entre trois femmes distinctes. La femme d'intention, la mère d'intention, qui élèvera l'enfant, la mère génétique, qui donnera l'ovocyte si besoin est, et la mère gestative, terme aujourd'hui préféré à celui de mère porteuse. Voilà, on déconstruit. On pourrait aussi imaginer, on y viendra bientôt, encore plus de mères. Hein. Selon cette même logique, la fonction paternelle peut également être répartie entre le père d'intention, qui ne devrait pas nécessairement être un homme, Pourquoi? Pourquoi cette discrimination? Qui pourrait même être tantôt un homme, tantôt une femme. Le père d'intention, le père génétique et le père légal, qui n'apparaît plus comme indispensable, mais comme un choix possible. Vous allez me dire, oui, mais là, vous exagérez, vous voulez illustrer votre propos en allant trop loin. Dans cet esprit, le ministère de la justice néerlandaise vient de lancer, par exemple, une étude pour déterminer si 3 personnes, voire davantage, pourraient être simultanément parents d'un même enfant. Et cette étude est basée sur une demande au Parlement des socialistes, des Verts et des libéraux, société démocratique. Les difficultés soulevées face à un tel projet, fait significatif, sont surtout d'ordre pratique. Par exemple, si l'enfant tombe malade, qui va prendre les décisions? La décision à 3 est plus compliquée qu'à 2. Déjà, à 2, ce n'est pas toujours simple. Mais aucune considération n'a été faite sur les conséquences pour l'identité en élaboration de l'enfant soumis à une telle ingénierie sociale. Avançons un pas plus loin. En stricte logique, la maternalité et la paternalité pourraient être à leur tour disséquées en plusieurs éléments autonomes et librement recomposés au gré des volontés. Désormais, certains milieux parlent de pluriparentalité. Pluriparentalité. Parce que le mot paternalité et maternalité est encore trop lié à un enracinement biologique. Et donc, ne fait pas suffisamment droit à la liberté sociale et individuelle. C'est-à-dire, donc, cette pluriparentalité, des fonctions parentales plurielles qui peuvent être assumées par différents acteurs. On glisse vers une vision complètement fonctionnaliste de la parenté. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère toujours parler de parenté, qui fait abstraction des personnes sexuées concrètes. La parenté devient un jeu de rôle que les individus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin, je veux dire, la logique... ne met pas de nombre, se distribuent les jeux de rôle que les individus se distribuent au gré de leur configuration, de leur contrat, de leur volonté. Les juristes ont de beaux jours devant eux. La filiation est, pour reprendre un terme de Xavier Lacroix, bricolée. Voilà, nous sommes... Nous arrêtons dans notre entreprise de déconstruction. Dans l'exposé, vous pourrez voir, j'ai mis en annexe la déconstruction de la maternité et de la famille dans les théories gender. Il y a 2 pages et demie. Voilà, ça vous intéresse. Voyons, passons maintenant au point 3. Les nouveaux modèles familiaux et la famille. J'ai 4 points. Tout d'abord, premier point, totalité et individu. Totalité au singulier et individu au pluriel. Ce mouvement déconstructiviste et reconstructiviste est porté, quand vous l'analysez en profondeur, par une anthropologie qui considère les êtres humains comme des atomes autonomes, égaux, interchangeables, ayant le droit d'exercer librement les mêmes rôles. C'est intéressant de voir l'anthropologie qu'elle a dessous. Une telle dynamique ne peut que rater la spécificité de la communauté familiale et du lien matrimonial. Elle demeure, une telle anthropologie, qu'elle soit de droite ou de gauche, ou même de centre, une telle anthropologie demeure inexorablement au seuil d'une anthropologie de la différence et de la relation. Elle se situe dans une dialectique du tout et des parties, de la collectivité et des individus, de la diversité dans l'égalité. Elle ne se situe pas dans celle de la dialectique de l'universel et des singularités, de la communauté et des personnes, de la différence dans l'unité. Le terme. La grille sociologique que je vous ai présentée en introduction, les trois grands types, est de ce point de vue significative. Elle interprète, construit et classe les conceptions familiales à partir d'une dialectique d'opposition entre la totalité et les individus. Au début, primait, au début était la totalité. La totalité primait sur l'individu, famille traditionnelle holistique. Puis, cette totalité s'est réduite au noyau triangulaire homme-femme, enfant, formant une seule chair. Quasi toujours aux dépens de la femme, famille moderne. Aujourd'hui, enfin, l'individu autonome et responsable accède pleinement à lui-même. Donc, le tout est en... la totalité est en quelque sorte évacuée au profit de l'individu. Il peut choisir et constituer le gender qu'il souhaite avec la configuration familiale qui en découle. Il peut inventer les formes de collectivité en s'associant contractuellement avec qui il veut, de la manière qu'il veut, la famille postmoderne. Certes, selon cette lecture de l'histoire, l'humain postmoderne peut choisir, vous voyez mon expression, hein, l'humain postmoderne, j'ai dépassé la différence homme-femme. L'humain postmoderne peut choisir le modèle homme-femme-enfant, c'est-à-dire le modèle classique bourgeois. L'expression n'est pas de moi. Hein. Mais il doit le transformer profondément sur deux points. D'une part, ce sont les individus désormais qui comptent en premier lieu, non le noyau ou la cellule familiale. Libre ensemble, pour reprendre un titre de François de Saint-Gly, dans un ouvrage au sous-titre révélateur, L'individualisme dans la vie commune. D'autre part, ce ne sont pas d'abord les relations bilatérales de l'enfant à ses parents, d'un côté à sa mère, d'un autre côté à son père, qui font... Pardon, je reprends. D'autre part, ce ne sont pas d'abord les relations bilatérales de l'enfant à ses parents, donc c'est-à-dire d'un côté, il y a la relation avec papa, de l'autre côté, la relation avec maman. Ce sont ces relations-là qui fondent la famille, et ce n'est pas la relation conjugale. D'accord ? Logique, hein ? C'est une logique qui est rigoureuse, en fait. Hein. Point 2, une précompréhension universelle de la famille. Saisie dans une telle atomisation et dans une telle dialectique, il nous faut repartir, je l'ai déjà fait avec l'enfant, de la réalité quotidienne. Qui dit famille ne dit pas n'importe quoi. Réfléchissez un petit peu, dites, voilà, famille, qu'est-ce que ça représente en moi? Quel type de représentation ça évoque en moi? Bien sûr, il y a l'influence sociale et historique, mais fondamentalement, on fait la différence entre une horde de copains ou un club de sport et sa famille. Il y a une sorte de sens minimum de la famille qui est universel. Xavier Lacroix parle de SMIC conceptuel. De précompréhension minimum universelle. Que je n'ai pas décidé, que je reçois, que je le veux, que je ne le veuille pas. Quelle est cette précompréhension? Et là, j'utilise une description de Irène Théry, qui n'est pas chrétienne. La famille est le lieu où s'articule la différence des sexes et la différence des générations. Intéressant comme description. La famille est le lieu où s'articule la différence des sexes et la différence des générations. Double différence. La famille est le lieu où se conjugue, fin de citation. La famille est donc le lieu où se conjuguent des liens d'alliance, de filiation et de fratrie. Ces liens ne sont pas comme les autres. Ils possèdent une qualité spécifique. On sent bien que nos liens familiaux, même s'ils sont conflictuels ou douloureux, etc., on sent que c'est un autre type de lien que les autres. Il y a quelque chose de spécifique, même si on ne peut pas toujours mettre le mot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut tellement souffrir de liens familiaux pathogènes. Hein. Parce qu'on sent qu'il y a une qualité particulière. En prison, par exemple, seuls les liens familiaux, quand il y en a, demeurent. Intéressant de... Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Ils sont animés par un amour spécifique, ces liens. Ils peuvent être pervertis, cet amour. Hein. Mais enfin, avant de voir la perversion, voyons la réalité de l'amour. Avec ses gammes infinies et différenciées. Donc les liens familiaux ne sont pas d'abord des liens de domination, d'exploitation, de production, d'utilisation, de convoitise. On sent que ça, c'est une déviation des liens familiaux, c'est une perversion des liens familiaux. Les liens familiaux sont d'abord des liens d'amour. Alors, il faudrait maintenant évidemment préciser ce qu'on entend par amour, mais je n'ai pas le temps de développer cela. Cette articulation des sexes et des générations est fondamentalement triangulaire, l'homme, la femme et les enfants. De très nombreux auteurs considèrent l'avènement de ce triangle comme une avancée considérable dans le processus de civilisation, d'hominisation. Selon Edgar Morin, par exemple, le grand phénomène qui prépare l'hominisation et qui l'accomplit, je cite ici Edgar Morin, est non le meurtre du père, mais la naissance du père. À la différence des animaux, quelques animaux dont le mâle reste quand même plus ou moins présent avec les petits, mais en général, le mâle laisse la femelle toute seule. L'être humain progresse comme être humain, non en rejetant son père, ou en le faisant disparaître, mais en vivant en sa présence, dans une juste distance. La continuité en ce qu'on appelle aujourd'hui le couple géniteur et le couple éducateur est un gain remarquable en humanité. Par ailleurs, les enquêtes historiques montrent que la structure nucléaire de la famille, c'est-à-dire donc homme, femme, enfant, est très largement majoritaire dans l'histoire des civilisations. Il faut interroger ces gens-là aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a vraiment une sorte de dans certaines sociétés, une sorte de volonté de tout refondre, de faire quelque chose de radicalement neuf, qu'il ne faut pas se renseigner sur les autres civilisations. Le modèle monogame avec résidence commune est le plus répandu, même s'il tend à s'effilocher aujourd'hui dans notre société belge. Notons enfin, pour terminer ce deuxième point, que les nouvelles configurations familiales se construisent en référence plus ou moins consciente avec la famille que je viens de décrire. C'est le modèle qu'on a et qu'on essaye alors d'adapter ce modèle qu'on a comme préoccupation minimum, on essaie de l'adapter à la situation à laquelle on vit ou dans laquelle on veut vivre. En d'autres termes, la famille n'est pas une réalité malléable à merci. Ce triangle familial n'est nullement réductible, je passe à mon troisième point, communauté et personne, à une totalité à l'intérieur de laquelle ses membres seraient dans un rapport de domination et de confusion, ou de confusion. Il ne consiste pas dans une sorte d'explosion nucléaire permanente. Le triangle familial n'est pas un triangle des Bermudes, si vous voulez. Ou d'une sorte d'explosion nucléaire permanente, contrôlée tant bien que mal par une chape de béton. C'est pas ça la famille, d'accord ? Même si parfois c'est comme ça, mais c'est pas parce que c'est comme ça parfois que c'est ça en soi. Non. Ce triangle familial constitue une communauté de personnes qui articulent d'une manière précise les sexes et les générations, et au cœur de cette articulation habite ou devrait habiter l'amour. Comme l'écrit Jean-Paul II, notre défunt pape phénoménologue, la famille fondée par amour et vivifiée par lui est une communauté de personnes, les époux, hommes et femmes, les parents et les enfants, la parenté. Je suis familiaris consortium numéro 18. Son premier devoir est de vivre fidèlement la réalité de la communion dans un effort constant pour promouvoir une authentique communauté de personnes. Le principe interne, la force permanente et le but ultime d'un tel devoir, c'est l'amour. De même que sans amour, la famille n'est pas une communauté de personnes, c'est fort ça, hein ? Sans amour, une famille n'est pas une communauté de personnes. Ainsi, sans amour, la famille ne peut vivre, grandir et se perfectionner en tant que communauté de personnes. Oh, elle peut se perfectionner sans amour en tant qu'entreprise financièrement rentable, mais ce n'est plus une communauté de personnes au sens familial du terme. Certes, encore une fois, une famille peut verser dans diverses formes de totalitarisme, mais il s'agit alors de pathologie, comme on dit, de dysfonctionnement. J'ai travaillé longuement un livre passionnant de Suzanne Forward, dont le titre est évocateur, « Parents toxiques, comment s'en libérer ?»« Comment se libérer de leur emprise ?» On étudie ces systèmes familiaux qui étouffent la personne. Il s'agit aussi d'offenses. Plus profondément, toute famille doit lutter pour ne pas tomber dans les innombrables formes de tyrannie et inventer des processus pour sortir de ces crises, des remèdes pour soigner ces blessures. Parce que c'est souvent l'argument qui est pris par rapport en disant, oui, de toute façon, vous savez, votre famille, là, telle que vous nous l'annoncez, soi-disant naturelle, c'est vraiment un panier de crabes. Hein ? Ben, c'est vrai que c'est une réalité qui est d'autant plus sujette à être blessée que c'est une réalité magnifique, vous voyez. Plus une réalité est belle et profonde, plus elle peut être attaquée et plus elle peut faire mal et devenir un enfer. Si mon collègue de bureau me critique, c'est très pénible. Mais enfin, ce n'est que mon collègue de bureau. Si c'est mon fils ou mon conjoint qui ne me parle plus, qui n'arrête pas de me critiquer, là, ça me mine intérieurement beaucoup plus. Oui. Une telle vision est riche de toute une anthropologie relationnelle que je ne vais pas développer ici, évidemment, hein, mais qui est développée notamment par Jean-Paul II dans ses catéchèses du mercredi, hein, sur la différence, etc. On a vu cela lors des interventions précédentes. Il nous reste plus beaucoup de temps, 6 minutes, pour notre quatrième point. Donc, le premier point, c'était totalité et individu. Le deuxième point, c'était une compréhension universelle de la famille. Troisième point, communauté et personne au pluriel. Quatrième point, conjugalité et filiation.
C'est quoi ?
Conjugalité et filiation. Ce type spécifique de communauté, animée par l'amour, possède un ordre intrinsèque. Je cite de nouveau Jean-Paul II, « L'amour conjugal, en amenant les époux à la connaissance réciproque, qui fait qu'ils sont une seule chair, ne s'achève pas dans le couple, il les rend en effet capables de la donation la plus grande qu'ils soient, par laquelle ils deviennent coopérateurs avec Dieu pour donner vie à une autre personne humaine. » Ainsi, c'est splendide hein, comme expression, « Ainsi, les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant, reflet vivant de leur amour. » Familiaris Consortio numéro 14. Le berceau anthropologique, pour reprendre une expression chère au père Matthäus, de chaque nouvelle personne réside donc dans la relation d'amour de ses parents. Telle est sa maison, le toit qui abrite son libre développement comme personne. L'amour, décrit en termes de donation, ne procède donc pas n'importe comment. Il suit un chemin précis. Il ordonne intimement le lien parental au lien conjugal. Je cite de nouveau Jean-Paul II, au Familiaris Consortio 21. Vous savez, Familiaris Consortio, c'est vraiment la charte de la famille hein, au niveau chrétien, mais qui n'est pas uniquement réservée aux chrétiens. Familiaris Consortio rejoint une vérité universelle, hein, perceptible par tout homme, jusqu'à un certain point. Donc je cite, « La communion conjugale constitue le fondement sur lequel s'édifie la communion plus large de la famille, des parents et des enfants, des frères et des sœurs entre eux, des parents proches et autres membres de la famille. » Le moins important, c'est « fondement ». C'est la communion conjugale qui est le fondement. Le lien conjugal génère le lien parental. Je vais me dire, ça paraît évident. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est loin d'être évident. C'était une évidence possédée par nos parents de façon tranquille et habituelle, et par les générations précédentes pendant des millénaires. Aujourd'hui, ce n'est plus une évidence. Il faut montrer cela. Il faut essayer d'argumenter. Le lien conjugal donne de croître et de se déployer, donne au lien parental de croître et de se déployer. L'enfant est appelé à éclore et à se nourrir de la communion de ses parents, de l'alliance de leur cœur, de leur corps et de leur cœur. Il est convié à entrer et à grandir dans cette communauté de personnes, à y recevoir sa place et à y participer activement comme fils ou comme fille, selon évidemment les différents âges de son existence. L'enfant n'est donc pas la pierre de fondation de la famille. Il ne lui revient pas de fonder sa famille, d'engendrer ses propres parents à leur conjugalité. Tâche épuisante, ne fût-ce qu'au niveau psychologique. Imaginez devoir porter le couple de vos parents. Et évidemment, continuellement mis en échec. Au contraire, l'enfant est appelé à se nourrir de la relation qui existe entre les époux. Il a besoin de grandir à l'ombre de leur amour. C'est même son droit le plus strict. C'est le lien conjugal qui fonde la parenté et la famille, non l'inverse. C'est vraiment une réalité anthropologique de base. Nous nous situons ici au niveau de ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, la loi naturelle, entendue non en son sens exclusivement biologique, mais aussi métaphysique, et surtout métaphysique, anthropologique et éthique. La famille homme, femme, enfant, ainsi décrite, n'est ni bourgeoise, ni chrétienne, ni judéo-chrétienne, ni moderne, ni classique, ni plutôt de droite. Elle est de tout temps. Elle est la plus universelle de toutes les institutions. Elle est le fruit d'un don et évidemment aussi d'une conquête à travers l'histoire des générations et des sociétés. Conclusion, qui va être peut-être un petit peu sévère, mais voilà. Les nouveaux modèles familiaux ne sont ni des nouveautés, ni des modèles, ni des familles. Ils se caractérisent tous, d'une façon ou d'une autre, par la déliquescence du lien conjugal et par son remplacement par la notion de gender. Une telle logique est-elle dans l'intérêt de l'enfant, comme on dit ? Certaines personnes le prétendent. Pour notre part, nous répondons clairement non. Les enfants sont les premiers à payer le prix de ces errances, dans leur corps, dans leur psychisme, leur cœur, leur esprit et leur âme. Comme souvent, ce sont les plus faibles qui font les frais. loi d'iniquité vieille comme le monde. Encore une fois, ici, je ne condamne pas les personnes, ce sont des structures, des situations. Des structures de péché. L'humanisme chrétien prend viscéralement parti pour le plus petit. On ne peut pas nous reprocher, c'est ce que nous sommes. On prend toujours parti pour le plus petit. Le respect du plus fragile, en sa singularité personnelle, est garant du respect de tous en leur singularité personnelle. Dans ce sens, nous avions eu un exposé sur, avec une expression forte sur l'embryon comme étant, tu avais dit, l'humain le plus...
L'humanité par excellence.
Je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre cette expression. Plus radicalement encore, le christianisme discerne dans la lumière de la foi, donc là je passe à un niveau théologique, ici jusqu'à présent j'étais... Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un chrétien défende toujours les plus petits. C'est donc d'autant plus scandaleux quand le chrétien ne défend pas les plus petits. Alors maintenant, passons à un niveau proprement dans la lumière de la foi. Le christianisme discerne dans la lumière de la foi la présence aimée de son Seigneur, le Verbe même de Dieu fait chair dans les plus petits. C'est le fameux passage Matthieu 28. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Un des services les plus éminents à rendre à ces plus petits ne consiste-t-il pas aujourd'hui à promouvoir l'amour entre ses parents, à encourager, soutenir leur lien conjugal directement et indirectement au niveau de la société? Voilà. Merci.